Publicité.
Attention, entrepreneurs et professionnels de la comptabilité, il est temps de transformer votre gestion d'entreprise avec Akumbago, la solution web 100% québécoise conçue pour vous. Depuis plus de 35 ans, Akumbago soutient les PME d'ici en vous offrant un écosystème complet pour optimiser chaque aspect de vos opérations. Facturation flexible, gestion des clients, fournisseurs et bien plus. Choisissez le forfait qui vous convient et bénéficiez d'un service de qualité en français depuis le Québec. Visitez dès maintenant akumba.com pour découvrir leurs solutions ou planifier une démo. Akumbago, l'allié des entrepreneurs du Québec. Bonjour, bonsoir, au microphone Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous accueillir pour cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 12 avril 2024. Au sommaire cette semaine, on va parler d'une application qui traduit les pleurs des bébés. On va parler d'un outil québécois de financement en ligne. On va parler de commerce en ligne au Québec. Et puis, on va parler d'une rencontre qui va se tenir dans les prochains jours à Montréal au sujet de la souveraineté culturelle et des géants numériques. Mes collègues sont là également. Avec Jérôme Colombin, on parle d'intelligence artificielle, particulièrement celle de Meta, et aussi de risque d'espionnage des iPhones d'Apple. Thierry Weber est de retour avec un hommage à un grand homme de science qui vient de nous quitter. Stéphane Ricoul nous fait parvenir une carte postale sonore du bord de la mer. Et Jean-François Poulin nous parlera de gestion de trafic à Québec. Permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Julien et Samba C4 qui écoutent Mon Carnet depuis Spotify, Martin Morgan Taylor, Rock Gamache et Eric M. À vous 5, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. Merci d'être là, c'est vraiment apprécié. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez hop, direction Paris pour retrouver Jérôme Colombin et notre échange hebdomadaire. Salut Jérôme Colombin.
Oh, c'est magnifique. C'est ton avion, c'est ton jetpack qui vient de se poser dans mon podcast.
Exactement. Tu imagines un peu toute l'énergie que j'ai économisée
grandiose
pour un avion.
Salut Bruno Guglielminetti.
Ben, monsieur Colombin, vous avez fait des grosses rencontres, vous, cette semaine.
Ah, écoute, c'est quand même drôle, hein, parce que chacun de notre côté de l'Atlantique, là, toi à Montréal, moi à Paris, effectivement, on a eu des semaines plutôt sympas. On a fricoté avec les... avec deux grands pontes, deux pointures de l'intelligence artificielle. Hein. Raconte-moi d'abord de ton côté.
Ouais, ben écoute, tu fais allusion à la rencontre que j'ai eue, c'était dimanche dernier, alors qu'il y avait le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui présentait son nouveau en tout cas une partie de son budget qui va être annoncé là, très bientôt. Et là-dedans, il y a 2,4 milliards de dollars canadiens, donc ça fait quoi, 1 milliard d'euros, ça? J'exagère quand même, c'est plus que ça. Donc, qui va être investi dans l'infrastructure de l'IA au Canada et particulièrement dans le domaine de la sécurité. Ils vont créer un institut qui va veiller à la question de la sécurité dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et justement, pour cette présentation-là, ben il y avait flanqué à côté de lui Yoshua Bengio, qui est un des trois parrains là, de l'intelligence artificielle.
Comme on Yoshua Bengio. Ouais.
Et donc, Bengio de dire que avec cette initiative de créer un institut pour la sécurité et l'IA, le Canada se plaçait du bon côté de l'histoire. Et c'est assez intéressant parce que son entourage, par la suite, ils se reconnaîtront, sont passés voir en disant « Vous avez compris hein, la subtilité de son message? » Je dis « Oui, il en veut à la France.
» Ah ouais? C'est vrai? Pourquoi?
Ben ouais, parce qu'il trouve que vous faites pas trop attention à l'aspect sécuritaire de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais voilà.
Qui, écoute, nous?
Ouais. Mais de toute façon, regarde, on aura l'occasion d'aborder le sujet avec lui tous les deux, parce que on m'a dit que c'est une question de semaine, sinon un mois, on devrait lui parler tous les deux et faire une entrevue commune. Alors, on pourrait lui poser la question.
Tu parles de Joshua Bengio,
oui, pas de Justin Trudeau. Là.
Non, mais écoute, ah bah oui, alors là, voilà, effectivement, c'est un petit scoop qu'on vous livre. Hein,
ouais, mais toi, là, de ton côté, tu ferais aussi.
Alors moi, je ferais.
Parrain de l'IA.
Ouais, mais avec un collègue de longue date de Joshua Benjou, qui n'est autre que le français Yann Lequin. Parce qu'en fait, bon, voilà, c'est les parrains du deep learning, hein. Ils sont trois. Yann Lequin, Joshua Benjou, et puis,
l'anglais devenu torontois et qui travaillait pour Google, là, dont le nom voilà. Échappe, là, présent.
Oui, absolument. Geoffrey Hinton, qui d'ailleurs, lui, se range dans le camp des inquiets, hein, par rapport à l'intelligence artificielle.
Et c'est intéressant, hein. Il y a deux inquiets d'un côté, puis il y a le jovialiste de l'IA.
Voilà, les Français sont plus jovialistes, si tu veux.
Au niveau de l'IA, peut-être.
Mais effectivement.
Donc, c'est ça. Alors, ta rencontre, comment ça a été avec lui?
Ben, c'était très intéressant. C'était organisé au siège de Meta à Paris. Alors, j'étais pas tout seul, hein, je te l'avoue. C'était même international parce qu'il y avait beaucoup de journalistes français, mais également étrangers. Et en fait, c'est Meta qui déballait tout son savoir-faire en matière d'intelligence artificielle. Alors, j'en parle longuement dans mon émission cette semaine. Ce sera juste après notre rencontre, là, avec plusieurs interviews de Yann Lequin, mais également, alors on revient au Québec, hein, c'est amusant, d'une Québécoise, Joëlle Pinault, et puis Naila Murray, qui, elle, est encore d'une autre nationalité, elle est originaire de Trinidad et Tobago, et elle dirige le laboratoire FAIR de Meta, au niveau Europe, Proche-Orient et Afrique.
Ouais, tu me permets de mentionner que Joëlle Pinault, là, elle est en charge de la recherche sur l'IA et puis elle est aussi prof à l'Université McGill. Et elle est de toutes les grandes tribunes parce que justement, elle et Lacun, là, ça partage le plateau, là.
Ben, ce sont des pointures, hein.
Ouais. Mais sinon, l'entourage, est-ce que ça allait bien? Est-ce que vous avez été capable de leur parler?
Bah, écoute, oui, mais alors, c'est Yann Lequin, c'est une star internationale, maintenant.
Ah, oui,
alors, moi, je l'avais rencontré il y a très longtemps, avant qu'il devienne une star, à France Info, je l'avais interviewé. Il était encore abordable, accessible. Il venait d'avoir sa médaille Field, sa décoration de mathématiques, mais on pouvait encore, l'inviter, l'interviewer. Là, ça devient extrêmement compliqué de pouvoir lui parler. Il faut passer toutes les barrières des services de communication. Et tu sais, toi comme moi, que ces gens-là sont très forts, hein. Ils se mettent à 12. Il y a le chef, le sous-chef, le sous-sous-chef, le prestataire extérieur, le sous-prestataire extérieur. Et tu parles à tout le monde et on t'explique que oui, ça va être possible dans une demi-heure. Non, alors attends, finalement, c'est pas possible maintenant. Oui, alors peut-être au bout de la salle. Ah non, alors là, il y a l'heure du déjeuner. Non, revenez. Finalement, ce sera dans trois quarts. Au bout d'un moment, tu deviens fou. Au début, t'es poli. À la fin, tu t'énerves. Bref, j'ai quand même réussi à enregistrer un peu de conversation avec Yann Lequin. Et c'est absolument passionnant. Et c'est à écouter cette semaine.
Bah, de toute façon, moi, j'ai vu un petit extrait vidéo que t'as fait, que t'as partagé sur les réseaux sociaux.
Ouais,
et juste ce bout-là, c'est quand même intéressant.
Mais il est extraordinaire parce que
c'est
vraiment
un grand pédagogue. Bah, un peu
c'est
comme Yeshua Benjou.
C'est un très grand pédagogue.
Aussi, là, mais ce sont des grands pédagogues.
Il a une manière de trouver des images à chaque fois très, très rapidement. C'est un plaisir. Vraiment.
Bon, ben, ça, c'est donc, Yann Lequin, c'est bientôt, là, tout de suite après, dans ton podcast. Et puis, Yeshua Benjou, ben, c'est dans quelques semaines, hein, faudra patienter. Mais sinon, je pense à nos auditeurs respectifs qui sont utilisateurs de iPhone. T'as vu cette mise en garde?
Alors, je l'ai vu parce que j'ai vu l'alerte que toi, tu as publiée dans ta newsletter. Mais j'attends que tu m'en dises plus. De quoi il s'agit? Donc, il y a un problème sur les iPhones.
Ouais, ben écoute, c'est une alerte assez sérieuse pour que Apple, de son côté, comme fabricant, fasse circuler l'information. Ça touche des utilisateurs d'iPhone pour le moment dans 92 pays de la planète. Mmh. Et les gens qui sont affectés...
Et on est concernés ou pas, nous?
Ben là, c'est ça. Les gens qui sont affectés auront reçu, au moment où on se parle, un petit message ou par e-message ou carrément un courriel de la part d'Apple pour dire que leur appareil est concerné par l'information qu'ils ont là, concernant cette utilisation d'un logiciel espion qui aurait tenté d'attaquer leur appareil, sinon aurait réussi. Mais donc ça, c'est une mise en garde qui est faite. Ce qui me rappelle, et je prends le moment qu'on a à se parler comme ça, de rappeler à nos éditeurs respectifs que de temps en temps, il est toujours bon de redémarrer son téléphone, même chose pour l'ordinateur, que ce soit un Mac, que ce soit un PC, parce que dans la plupart des cas, lorsque des attaquants ou des espions ou des intérêts étrangers ou même des petits arnaqueurs technologiques décident de vous attaquer comme appareil, réussissent à installer quelque chose, normalement, c'est fait à la va-vite et donc, tout simplement en fermant l'appareil et en relançant l'appareil, vous pouvez neutraliser dans la majorité des cas. Évidemment, il y a des cas où c'est des applications, des petits logiciels qui sont beaucoup plus fins, qui vont aller se cacher quelque part. Et systématiquement, là, quand vous allez relancer une fonctionnalité de votre appareil, ça va redémarrer. Mais dans la plupart des cas, là, vous risquez de juste tout simplement arrêter ces tentatives d'intrusion chez vous. Ouais. Mais c'est quand même sérieux, hein, 92 pays qui sont alertés. Puis, comme tu le disais, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur moncarnet.com, j'ai fait un texte là-dessus parce que je trouvais ça intéressant puis surtout important que l'information soit partagée.
Tout à fait, absolument. Ben, merci beaucoup de cette mise en garde, mon cher Bruno. Je vais immédiatement redémarrer mon iPhone, alors. Bon. Puisque tu me conseilles.
Ben Jérôme, de ton côté, là, tu nous as dit que tu avais des invités VIP,
ouais,
dont une Québécoise. Je suis très ému. Mais de quoi tu parles?
Ben écoute, c'est un peu un dossier sur l'IA côté Meta, hein, que je vais proposer. Mais au-delà de Meta, c'est vraiment une plongée dans les arcanes de l'intelligence artificielle. Et c'est, enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter ça, à préparer ça, à monter ça, parce qu'on apprend énormément de choses sur l'intelligence artificielle. Et puis toujours en matière d'IA, eh bien, on va parler d'IA au service de la protection de l'environnement. C'est un rendez-vous régulier avec mon partenaire EDF et on s'intéresse à une start-up qui a mis au point, alors c'est très pointu, un système qui permet aux centrales nucléaires d'optimiser leur fonctionnement pour eh bien être encore plus productives et donc contribuer à la réduction de l'empreinte carbone de toutes les centrales et de toutes les productions d'énergie fossile dans le monde. Voilà, c'est assez intéressant également.
Et quand même, hein, c'est assez pointu comme entrevue. Ah, je suis curieux d'entendre ça.
Donc, j'invite mes auditeurs à aller écouter mon carnet juste après l'écoute de Monde Numérique, l'hebdo comme chaque semaine.
Bon, ben si tu fais ça, moi je fais pareil. Hein. J'invite mes auditeurs à passer chez vous. Et puis, tout de suite après mon carnet, puis je te dis à la semaine prochaine. Salut!
Salut Bruno, à la semaine prochaine!
Cette semaine, je vous présente une autre de ces belles histoires d'innovation développée à Montréal. Cette fois, c'est Nani AI, une application créée par Ubawa Health qui est en passe de résoudre un défi universel, comprendre les pleurs des bébés et déceler les problèmes de santé sous-jacents. Après un succès déjà pour sa version bêta téléchargée dans plus de 200 pays, maintenant Nani AI est offert à tous, enfin tous, aux parents, aux grands-parents et à tous ceux qui sont en contact avec des petits bébés. Et là, on parle d'une application basée sur des années de recherche clinique dans des hôpitaux à travers le monde et développée par une équipe de scientifiques, d'experts en IA et en néonatologie. Pour parler de cette application Nani AI, on rejoint le chef des opérations d'application. Bonjour Florent Vaumard.
Bonjour Bruno.
Florent, expliquez-moi, j'ai tenté de le faire, là, mais vous, expliquez-moi ce que c'est l'application Nani AI.
L'application Nani AI, c'est une application qui a été conçue vraiment pour les parents de nouveau-nés. Donc, sa fonctionnalité star, son plus gros atout, c'est de traduire les pleurs des bébés. Mais on l'a développé pour aller plus loin que ça. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les parents dans les premiers mois de cette nouvelle expérience d'avoir un nouveau-né. Donc, elle permet aux parents de suivre la routine de leur enfant, de noter, par exemple, lorsque le bébé se réveille, lorsque le bébé s'endort, lorsque le bébé a fait ses selles, toutes ces choses qui, au final, sont importantes à noter parce que lorsqu'ils vont rencontrer leur pédiatre, ces questions vont être posées. Donc, on est vraiment parti à la base de cette idée de, il y a quelque chose dans les pleurs, il y a un signal dans le pleur qui nous permet de savoir pourquoi le bébé pleure, utilisons-le. Et on a vu qu'il y a eu un fort succès, hein, vraiment une forte adaptation des utilisateurs par rapport à ça. En parlant avec les utilisateurs, on s'est rendu compte qu'ils voulaient plus, évidemment, et c'est pour ça qu'on a étendu ce concept à vraiment créer une application qui fournit une aide plus holistique aux parents.
Mais comment on décide un jour de créer une application qui traduit des pleurs de bébés? Je trouve ça fascinant, moi, que quelqu'un pense à ça.
Je dirais pas que c'était quasiment une chance, mais c'est un peu de ça. En fait, c'est vraiment partie d'études cliniques qui, elles, avaient pour objectif principal d'aller identifier des troubles neurologiques dans les pleurs des bébés. Donc ça aussi, il y a une genèse et il y a une autre histoire par rapport à ça. Mais ça, c'était vraiment le fondement des études cliniques, c'était d'aller annoter, d'aller récolter des pleurs de bébés en milieu hospitalier et d'aller les annoter pour certaines conditions médicales, pour pouvoir identifier des troubles neurologiques. Mais au travers de ces études, on demandait aussi aux médecins, aux néonatologistes avec lesquels on travaillait, de noter pourquoi le bébé pleurait. Et une des raisons pour lesquelles on faisait ça à la base, c'était vraiment parce qu'on voulait pouvoir identifier la différence entre un pleur de douleur et un pleur qui n'est pas un pleur de douleur. Donc, à la base, on partait vraiment là-dessus. Et donc, on a commencé à récupérer ces annotations. Donc, par exemple, quand le bébé pleurait parce que il y avait une prise de sang, on savait que c'était un pleur de douleur. Mais ils ont aussi annoté, par exemple, quand le bébé, ça faisait quelques heures qu'il n'avait pas été nourri ou suffisamment longtemps que c'était l'heure d'être nourri qu'il pleurait, ensuite il était nourri et il ne pleurait plus. Ça, c'était un pleur de faim. Et donc, on a récupéré ces annotations en milieu clinique pendant plus de 4 ans. Dans les hôpitaux au travers du monde. Puis un jour, on s'est dit, mais on crée ces modèles, on travaille sur ces modèles médicaux pour les troubles neurologiques, mais on a aussi des super belles données qui pourraient aider les parents. Et c'est de là que notre bêta est apparu et qu'on s'est dit, bon, bah, essayons-le. On a créé les modèles, on a développé les modèles en réutilisant notre plateforme qu'on a développée au niveau de du processing du signal du son. Et on a lancé l'application et c'est là qu'on a vu qu'il y avait un réel intérêt. Alors on s'est dit, OK, on embarque.
Parce que ce que je comprends de ce que vous nous racontez, c'est que dans le fond, pendant 4 ans, vous avez monté une trousse de données qui, par la suite, pouvait enseigner à une intelligence artificielle d'arriver à faire des parallèles entre les différents pleurs.
C'est exactement ça. Et puis, ça continue. Hein. On continue nos études cliniques. On pense qu'il y a aussi d'autres conditions que celles des troubles neurologiques qui peuvent être détectés par les pleurs. En fait, c'est la vision de notre entreprise, de Benoît et de ce qu'on veut faire. C'est vraiment de... On veut que les gens considèrent et que le milieu hospitalier considère les pleurs comme un signe vital. C'est-à-dire qu'on parle souvent, évidemment, de la température, du pouls, mais le pleur, finalement, c'est le premier langage du bébé. C'est contrôlé par le système nerveux. Un bébé ne choisit pas de pleurer. C'est un signal qui est émis en début de vie. Évidemment, ça change avec l'âge, mais au début, c'est vraiment ce que c'est. Et donc, ce qu'on dit, c'est que si on est capable d'interpréter ce signal et d'essayer de comprendre ce qu'il y a dedans, ben on a tout d'un coup à disposition plein de données vraiment intéressantes pour mieux comprendre l'état de santé du bébé et potentiellement identifier des troubles de façon combinée aussi avec les autres indicateurs qu'on peut utiliser aujourd'hui.
Mais dans les faits, comment vous arrivez à traduire les pleurs? Est-ce que c'est la tonalité, c'est la longueur? Qu'est-ce qui arrive, l'IA, à l'amener vers une réponse?
Alors, il n'y a pas une réponse directe à ça. Je dirais il y a deux réponses. On travaille sur extraire certains marqueurs dans la voix. Donc, on peut penser, par exemple, à la fréquence du pleur. On peut penser à la durée d'une expiration, donc le « ouin ». On peut aussi durer la durée entre les expirations. Et c'est assez intuitif. Si on y pense, un bébé qui va être très énervé, qui va peut-être être en douleur, il y a des chances pour que sa fréquence soit plus élevée, pour que les pauses soient plus courtes parce qu'il hurle, parce qu'il ne se laisse pas le temps. Donc, il y a un côté très intuitif.
Ben, c'est les signes que les parents ont pris depuis toujours là, pour essayer de voir ce qui se passait. Là,
ouais. C'est exactement ça. Ils l'apprennent naturellement et les néonatologues l'ont appris aussi pendant des générations. Donc, c'est quelque chose qui est intuitif, mais pas toujours perceptible. Ça, c'est une partie, je dirais, de l'équation. C'est pas toute l'équation, sinon ça serait plus facile que ça. Et l'autre partie, c'est qu'on utilise des modèles qu'on dit d'apprentissage profond, de deep learning. Et évidemment, c'est des modèles qui sont un peu plus boîte noire. Donc, c'est plus difficile d'expliquer, de corréler, de comprendre exactement pourquoi, mais c'est extrêmement performant. Et c'est eux qui nous permettent d'avoir aujourd'hui, par exemple, pour ce qui est des troubles neurologiques, on parle dans nos dernières études d'une précision d'au-dessus de 90% pour identifier si un enfant a des risques de troubles neurologiques ou non, juste via les pleurs. Donc, imaginez quand on rajoute les autres éléments de santé de l'enfant pour prendre en compte cette décision.
Vous parlez d'apprentissage machine, on parle d'intelligence artificielle. Vos bureaux sont situés au Milan. Vous avez un lien un peu particulier, puis je veux quand même le souligner parce que ça montre le sérieux de votre travail s'il y a des gens qui en doutent. Et c'est le fait que, en quelque sorte, vous avez un parrain qui, peut-être que les gens vont connaître le nom, si je dis Yoshua Bengio, ouais, j'allais dire, vous faites partie de ses disciples, hein, vous faites partie de ces gens qui ont travaillé avec lui, qui travaillent toujours avec lui.
On a cette chance énorme d'avoir Yoshua comme ange investisseur et comme conseiller scientifique. Donc c'est un des cofondateurs, Charles, notre CEO, lui, il a fait son post-doc à McGill en apprentissage profond. Et puis, au travers de ça, il a travaillé avec Lumila aussi. Et c'est là que les relations se sont créées. Et évidemment, Joshua a été intéressé par le projet pour ses impacts potentiels parce que, évidemment, il y a le côté scientifique qui est passionnant, mais il y a aussi le côté médical et l'impact parce que on parle d'une solution potentiellement non invasive pour détecter des troubles qui ont des impacts vraiment extrêmement forts dans des pays en voie de développement. Donc c'est quelque chose qui évidemment l'a beaucoup touché et donc c'est certain qu'il est c'est juste génial de l'avoir. C'est génial au niveau scientifique, c'est génial au niveau crédibilité comme vous le dites parce que c'est quelqu'un qui a une telle réputation que rien que...
Il a une aura, donc s'il s'associe à vous, on voit le sérieux de la chose.
Mais à raison, j'ai eu peu de rencontres ou de séminaires scientifiques parce que c'est pas moi qui suis le scientifique dans la salle, mais quand il est là, en quelques minutes, ses additions et ses commentaires sont toujours extrêmement pertinents, donc on est vraiment, vraiment chanceux.
Je vous détache de la partie mystérieuse ou magique ou fascinante de votre application, mais il y a, puis vous en avez parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je vais revenir là-dessus, il y a le volet aussi d'aide aux parents. Vous savez, quand on, je sais plus si c'est encore le cas, mais moi, encore à l'époque, quand j'ai eu mes enfants, on nous donnait dans la préparation des parents une petite brique bleue, là, un livre, puis c'était un peu comme la Bible des enfants, et pour essayer de savoir ce qu'il fallait faire, quoique finalement, on découvre que ça s'en prend sur le tas. Mais vous avez décidé d'ajouter à votre application un agent conversationnel qui, justement, est là pour aider les gens. L'information, parce que là, c'est toujours délicat. C'est pas à vous que je l'apprends. Quand on travaille avec l'IA, il y a des hallucinations, il y a des choses du genre, même si on le fait travailler sur une trousse de données bien serrée. Comment on arrive à s'assurer que l'information que cet agent conversationnel-là va donner aux parents va être la bonne?
On préfère prendre plus et trop de précautions que pas assez. Comme on dit, l'IA générative, puis les LLM sont devenus très, très à la mode ces dernières deux années. Donc, d'une part, entraîner effectivement sur des données plus précises, puis mettre vraiment des garde-fous. Et je veux pas prendre le crédit. Aujourd'hui, ces modèles viennent avec des options. Hein. Si on prend un ChatGPT d'OpenAI, etc., ils font déjà le gros du travail en termes de mettre ses garde-fous. C'est toujours possible de piéger un modèle quand on sait vraiment s'y prendre et puis qu'on veut vraiment. C'est la vérité. Mais c'est ça. On le teste rigoureusement. On lui parle beaucoup et on constate que ça se passe très bien et qu'il sait à quel moment dire, ben, regarde là, c'est du médical. Je suis pas amené à parler de ça. Mais ça, c'est une information qui est intéressante. Puis ce qui est génial avec l'IA générative, c'est que ça marche dans toutes les langues aussi. Donc, on a des utilisateurs qui sont aux quatre coins de la planète, qui lui parlent en hindi, en portugais, et ça lui répond. Et ça, c'est quand même phénoménal par rapport au temps que ça prend à mettre en place versus le output. C'est merveilleux.
Quel type de questions ou de sujets l'agent conversationnel reçoit le plus souvent comme question, comme...
C'est souvent drôle. Il y a plusieurs types de questions, mais c'est souvent des questions quand même sur je n'arrive pas à calmer mon bébé. Que puis-je faire? J'ai nourri mon bébé, il continue de pleurer. Donc c'est quand même des questions qui nous amènent à constater qu'il y a un degré d'anxiété, qu'il y a un degré de ça ne fonctionne pas et c'est pour ça qu'on télécharge votre application, c'est pour ça qu'on veut utiliser le traducteur de pleurs et que c'est pas facile et que c'est difficile. Je dirais que c'est vraiment le plus fréquent. Certains l'utilisent aussi simplement pour dire, bah, est-ce que tu peux raconter une histoire pour avoir une histoire à raconter. Et puis, s'il y a quelqu'un qui raconte des belles histoires, c'est évidemment de l'IA générative. Donc, invente une histoire sur le tas pour un bébé. Donc, c'est assez varié et puis c'est super intéressant pour nous, évidemment, quand on conçoit une application, d'avoir quelque chose comme ça, parce que ça nous permet de rentrer un peu dans la tête puis de comprendre ce que les utilisateurs veulent voir pour s'assurer qu'on s'adapte puis qu'on leur propose des outils puis des fonctionnalités qui les intéressent.
D'un côté éthique, parce que c'est quand même important, parce que vous jouez avec un peu la vie de ces bébés, de ces familles-là. Donc, il y a énormément d'informations qui passent chez vous. Qu'est-ce que vous faites avec toutes ces données? Est-ce qu'elles servent à la recherche? Est-ce qu'elles sont commercialisées? Est-ce qu'elles sont anonymisées? Est-ce qu'elles sont détruites? Comment ça se passe?
Les données sont anonymisées, mais ne sont pas commercialisées. Puis c'est pas du tout quelque chose qu'on a dans nos ambitions futures. On les utilise par contre pour continuer à améliorer nos modèles. Donc il y a vraiment cet effet un peu bénéfique, cercle vertueux d'avoir plus
machine.
De données, d'apprentissage machine, c'est ça. Parce que d'un côté évidemment il faut des données à noter puis à noter correctement, mais même en fait être capable de bien reconnaître ce que c'est qu'un pleur. Pour donner un peu un ordre de grandeur, je pense qu'il a fallu 2 à 3 mois à l'application pour obtenir autant de pleurs que ce qu'on a pu obtenir en 4 ans d'études. Alors évidemment, c'était des pleurs annotés par des pédiatres en milieu professionnel. Donc c'est autre chose, mais ça montre quand même l'importance. Et maintenant, on doit en récupérer en 2 jours. On doit avoir plus de pleurs que ce qu'on a fait en 4 ans d'études parce que l'application est beaucoup plus utilisée évidemment maintenant. Donc il y a vraiment cet effet extrêmement positif de mieux comprendre ce qu'est un pleur. Et puis avec l'effet de communiquer avec les parents, est-ce que ça a fonctionné. Donc on leur demande et on propose des recommandations, puis ils peuvent dire ok oui ça a fonctionné. Et là on sait s'ils nous disent ok ben c'était un pleur de faim, j'ai nourri mon enfant, ou c'était un inconfort et puis j'ai changé la couche, ou effectivement il y a quelque chose qui était coincé. Donc on leur propose les différentes possibilités. Une fois qu'ils nous disent oui c'est ça, ben on sait qu'on a que c'était vraiment, fait que ça valide le modèle, ça me permet d'avoir des données aussi annotées par les parents eux-mêmes au travers de l'expérience.
Et est-ce que Nanny AI pourrait s'adapter à un enfant?
Absolument. Puis je pense qu'on va devoir aller dans cette direction-là aussi parce que les enfants apprennent très vite. Les bébés apprennent à une vitesse incroyable. Ils apprennent de leur environnement, de leurs parents. Les parents apprennent de leur enfant également. Donc c'est sûr que à partir d'un certain moment, les pleurs vont évoluer, puis ils vont être peut-être plus personnels. Ils vont être plus touchés par l'environnement qu'à la naissance où c'est vraiment le système nerveux qui contrôle. Et donc, je pense que c'est essentiel pour nous si on veut continuer à améliorer nos modèles, particulièrement pour des enfants, j'ai envie de dire plus âgés, mais on parle de bébés de plus de 6 mois, de continuer à offrir finalement une traduction, une interprétation, je dirais, précise et bonne au travers du temps, oui.
Je reviens sur un aspect de votre réponse précédente. Vous parliez des professionnels. Ça veut dire que l'application, elle sert à la fois aux parents, mais elle peut aussi servir aux professionnels.
En fait, on aimerait beaucoup être un peu le pont entre le milieu parental et le milieu professionnel, non seulement au niveau du pleur, mais le pleur et la compréhension des pleurs, c'est pas, je dirais, de façon générale, l'utilisation des sons et des pleurs dans la médecine n'est pas quelque chose qui est existant. Donc c'est quelque chose où évidemment on a une belle technologie, mais on se heurte aussi à la nouveauté, au fait que les gens sont pas équipés prêts à ça. Donc on travaille plus avec les pédiatres aujourd'hui sur quelles sont les informations dont vous avez besoin lorsque vous avez des visites de routine avec vos parents. Et puis notre idée, c'est de dire, OK, on veut aider les parents à construire cette image dans l'application de la meilleure façon, puis de la façon la plus intelligente. Donc, par exemple, bébé s'endort, vous avez un biberon dans les mains, vous pouvez simplement dire à Nanny, Mila s'est endormie. Et là, l'application va noter, va transformer cette parole en une routine de « ok, ben Mila s'est endormie ». Et donc, on va pouvoir créer cette image de la routine, finalement ce calendrier du bébé, et pouvoir dire à la fin de la semaine, ben, « cette semaine, vous voyez que votre bébé a dormi à peu près 14 heures par semaine, c'est tout à fait normal. Votre bébé s'est nourri à peu près 6 ou 7 fois, a eu des selles X fois. » Et puis, c'est quelque chose qui va permettre d'éduquer la conversation avec le médecin, parce que le médecin demande, est-ce que votre bébé dort bien? Qu'est-ce que ça veut dire bien? Ben, là, on a des stats, on a des données fiables. Donc, il y a ça. Puis évidemment, il y a aussi tout ce qui est les jalons de développement. Et ça, on s'équipe ardemment et sans gêne du CDC qui fournit toutes les informations qui disent, OK, ben, un bébé, à partir de 4 mois, il est censé être capable de. Puis là, j'en dis une sans savoir si c'est la bonne période, donc ne m'arrêtez pas là-dessus. Mais après 6 mois, il est censé se tenir droit, par exemple, si on le pose. Ça, c'est une marge. Ça va être quelque chose qu'un pédiatre va te demander au rendez-vous après 6 mois pour valider que ça fonctionne. Donc là, on va finalement permettre aux parents de comprendre quels sont ces jalons déjà à l'avance, de voir à quoi ils correspondent avec des vidéos du CDC. Puis ensuite, ça va me dire, bah oui, c'est fait. Puis on arrive à la rencontre en disant, en fait, moi, j'ai une petite inquiétude. Il y a ce jalon-là que j'ai vu, mon enfant ne le fait pas. Puis là, le médecin va pouvoir dire aucune inquiétude ou ah, OK, on va regarder. Mais ça permet d'éduquer. Et puis, Une des ce qu'on a ressenti dans les discussions avec les pédiatres, c'est qu'il y a un besoin. Ils le savent que ces rencontres sont rapides, que des fois les parents repartent, ils avaient encore des questions, mais on sait que le système de santé est quand même très très intense. On n'a pas autant de pédiatres qu'on voudrait. Donc, on essaie de transformer l'application pour qu'elle puisse faire ce pont vraiment entre le pédiatre et les parents. Et c'est vraiment une première étape pour nous parce qu'on voit beaucoup plus loin pour ce qui est du médical dans l'application pour le futur.
Ben justement, vous parliez de jalons pour l'enfant. Les prochaines étapes pour Nanny AI, ça ressemble à quoi?
Prochaines étapes, on a plein d'idées de fonctionnalités un peu plus intelligentes à mettre. Donc, s'attendre à des, par exemple, des prédictions de quand est-ce que bébé va se réveiller, quand est-ce que c'est une bonne période pour remettre bébé au lit basé sur son cycle. On travaille aussi sur un rapport de santé, vraiment quelque chose qui va être fait pour quasiment envoyer en PDF à votre pédiatre, puis ça donnera toute l'information. Ça, je dirais, c'est du très court terme, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Mais la recherche et développement continue très très fort du côté médical et de nos algorithmes qui permettent de détecter, eux, les troubles neurologiques. Et on est à la phase où on veut aller chercher l'approbation par Santé Canada, par le FDA pour ces modèles-là. Et donc là, ça ouvre vraiment une autre perspective parce que on aimerait à terme pouvoir les intégrer et dans l'application, mais aussi potentiellement dans des moniteurs pour bébés,
Ah ben là, on va être dans
même
le
dans
domaine de
des.
la medtech, là.
Là, on va être dans le domaine de la medtech, absolument, et au milieu hospitalier et au milieu de la maison parce qu'il faut pas se mentir, le milieu, il y a de plus en plus de plus en plus le monitoring, le suivi de la santé sort du milieu clinique et s'en vient à la maison.
Ben,
Donc,
pour les
ça
adultes,
commence
il y a les
par.
Apple Watch et compagnie, et donc
Exactement, la
Nanny AI, c'est pour
Fitbit.
l'enfant, ouais.
C'est exactement ça. Il y a la Fitbit, le iWatch qui joue beaucoup sur cet aspect, donner de l'information de la santé. Nous, on est fidèle à notre credo, qu'on sait que c'est dans les pleurs qu'il y a des beaux signaux, et puis c'est notre expertise. Je pense qu'il y a des opportunités, évidemment, d'intégrer ça avec d'autres éléments. Pourquoi pas, je sais pas, il y a aussi des Fitbit pour enfants, pour bébés, peut-être pas, mais on peut tout à fait imaginer que ce sera pas juste les pleurs, mais rien qu'avec les pleurs, on est convaincu qu'on va pouvoir finalement offrir une autre façon de suivre et de surveiller la santé des bébés à la maison. Puis j'ai envie de dire, la surveiller, c'est un aspect, mais dans évidemment quand on parle de pays en voie de développement où une grande partie de ces troubles neurologiques ne sont pas du tout détectés, même en milieu hospitalier. Là, on parle vraiment même d'un impact
Ah, c'est une
clair sur des
révolution, là.
millions. Oui, c'est vraiment, c'est ça aussi la mission, c'est ça qui nous tient à cœur. C'est pour ça que le nom de l'entreprise, c'est le pleur du bébé, le cri du bébé en dialecte nigérien, en Igbo, parce qu'on sait que c'est là-bas qu'il va y avoir le plus d'impact, puis c'est aussi ça qui nous drive.
En terminant, parce que là, je suis sûr qu'il y a des parents, des grands-parents, des amis de parents, des futurs parents qui écoutent, cette entrevue-là. Nanny AI, je présume que c'est pas gratuit. Comment ça fonctionne?
Aujourd'hui, l'application est complètement gratuite, donc il suffit simplement de la télécharger sur le App Store si vous avez un iPhone ou le Play Store si vous avez un téléphone Android. Elle est disponible entièrement gratuite aujourd'hui. Il se peut que dans le futur, certaines fonctionnalités deviennent payantes, mais aujourd'hui, on est vraiment notre priorité, c'est comprendre, aider, apporter de la valeur. Et ça, c'est en ayant le plus d'utilisateurs possible et en ayant le plus d'utilisation possible qu'on va pouvoir le faire. Aussi, faut savoir que chaque pleur enregistré de nouveau nous permet de mieux comprendre ce qu'est un pleur. Et quand je dis nous, je parle vraiment de nos algorithmes. Et donc, derrière ça, c'est aussi quelque chose qu'on sait que ça va nous aider sur notre portion de recherche. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est très intéressant pour nous d'avoir l'application gratuite parce que ça permet simplement d'avoir du volume et d'aider nos algorithmes qui, eux, à terme, vont pouvoir créer des solutions médicales.
Je pensais jamais pouvoir dire ça un jour, faire avancer la science un pleur à la fois. C'est vraiment fascinant.
Oui, mais on ne souhaite pas aux parents
Non.
trop de pleurs non plus. Ça m'arrive régulièrement de les écouter, on fait des contrôles de qualité, etc. Et
Aïe, aïe, aïe. Ça doit être
c'est
déchirant
jamais
des fois.
pas déchirant. Ouais, c'est toujours, ça vient toujours prendre de les entendre.
Laurent Boumard, vous êtes chef des opérations pour l'application Nanny AI. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Bruno. Une excellente journée.
Les géants du numérique comme Google, Facebook et Apple et les autres exercent aujourd'hui une influence considérable sur la diffusion des contenus culturels à travers leurs plateformes et leurs algorithmes. Mais ces algorithmes opaques et les critères de sélection restent quand même un secret industriel pour chacun d'eux, soulevant des interrogations sur les potentiels biais et l'impact sur la diversité culturelle promue. Les 18 et 19 avril prochains, ça c'est jeudi et vendredi, il y a des gens qui vont se rencontrer à l'Université de Montréal pour se pencher sur la situation dans le cadre d'un symposium qui s'intitule « Souveraineté culturelle et géants numériques, regards croisés, Canada, France, Belgique » et Québec, organisé par le Centre de recherche en droit public et l'Université de Montréal. Pour nous parler de cette rencontre, on va retrouver Alain Saunier, qui est professeur honoraire au département de communication de l'Université de Montréal et co-organisateur du symposium. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alain, quel est le but de ce symposium? Parce que le sujet est large, là.
Ouais, ben le sujet est large et puis il évolue de semaine en semaine, de jour en jour, je dirais. Mais en même temps, il s'agit d'une idée folle que moi j'ai eue déjà il y a quelques mois. C'était de voir comment est-ce qu'on pourrait à la fois approfondir notre réflexion sur la souveraineté culturelle, comment établir notre véritable souveraineté culturelle quand on sait fort bien que les géants numériques nous imposent leurs choix sur le plan culturel et tout ça. Et puis, l'autre aspect de cette idée folle, c'était de faire un genre de regard croisé pour connaître un peu comme les meilleures façons de travailler, les meilleures pratiques, comme on dit en anglais, là, mais c'est un anglicisme, mais du côté de la Belgique, de la France, Canada, Québec. Alors donc, ces regards croisés, on va les tenir les 18 et 19 avril prochain, avec aussi des invités de prestige, d'une part des ministres, et pas les moindres. On parle de Pascal Saint-Onge du ministère du patrimoine canadien, Mathieu Lacombe de la culture et des communications du Québec, Franck Rister, qui est le ministre de la francophonie française, et puis il y a un représentant de la ministre de la culture de la Wallonie-Bruxelles, Monsieur Blanchard. Alors donc, il y a un volet politique où chacun va pouvoir établir un peu de quelle manière ils entrevoient les choses. Et les choses étant la souveraineté culturelle, comment on peut véritablement l'établir, l'afficher, l'affirmer sur les plateformes que nous ne contrôlons pas. Et puis, il y aura des experts qui vont venir aussi pour commenter un peu l'ensemble de ces thématiques et sous-thèmes un peu que ça peut comporter.
Il y a deux ans, plus que deux ans, là, c'était en février 2022, si ma mémoire est bonne, tu as publié « Les barbares numériques ». Ce symposium-là, j'allais dire, est-ce que c'est la suite de ton livre?
Un peu, oui. Et je vais même me servir de ce symposium-là pour écrire un autre livre. J'ai fait beaucoup de ce que j'appelle d'un service après-vente depuis la publication de mon essai qui a bien marché par ailleurs et qui a eu un véritable impact.
Et encore aujourd'hui.
Oui, j'écoutais une entrevue tout récemment, puis quelqu'un utilisait l'expression « barbare numérique » comme le dit Alain Saunier. Alors, bon, je pense que ça a fait le tour et j'en suis bien content. J'en suis ravi. Mais oui, effectivement, il y a une suite logique dans tout ça. Bien que si j'avais aujourd'hui à réfléchir un peu, c'est quoi la souveraineté la plus menacée? La souveraineté culturelle en est une, bien entendu. Mais je pense que c'est aussi la souveraineté démocratique. Parce que ce qui se passe de plus en plus à l'heure actuelle, c'est que les États se trouvent à être un peu défiés par les géants numériques qui ne veulent pas reconnaître l'autorité des États, qui ne veulent pas reconnaître non plus les organisations, les organismes de réglementation. On pense à Meta, comment ils ont décidé de claquer la porte lorsqu'il y a eu des négociations pour le projet de loi C-18 concernant les contenus journalistiques. Donc, c'est certain qu'aujourd'hui, on parle de souveraineté culturelle dans ce symposium de la semaine prochaine, mais il faut de plus en plus aussi regarder la notion de souveraineté démocratique, souveraineté numérique, si on veut l'appeler ainsi. Ça a un impact, cette souveraineté-là des États qui est défiée par les géants numériques à tous les égards. Et puis, ça a un impact aussi sur tout ce qui s'appelle la désinformation, la mésinformation, et ça fait en sorte que notre démocratie, elle est aussi attaquée et vraiment en sérieuse difficulté. C'est ce que je considère actuellement. Alors, vous aurez mon autre livre qui sera publié en septembre ou octobre prochain, mais en tout cas, certainement pour le Salon du livre à l'automne prochain à Montréal.
Tu as fait allusion, puis je vais revenir sur le sujet parce que j'ai tellement pensé à toi à ce moment-là. Est-ce que toutes les péripéties entourant la loi C-18, les négociations concernant cette loi là, sur les nouvelles en ligne, ça t'a sûrement pas rassuré de voir que d'un côté, il y avait un Google qui décidait de s'accommoder d'un projet de loi en négociant, selon ses termes, sa participation, puis de l'autre côté, il y avait un joueur comme Meta, puis tu le disais, qui lui a tout simplement claqué à la porte et parti, puis ça finissait là.
Ouais, en fait, Meta, moi, je n'étais pas surpris parce que si on se rappelle, 2 ans auparavant, ils avaient fait une entente avec l'Australie. Et dans ce cas-là, j'ai comme l'impression qu'ils le regrettaient. Alors, il n'était pas question d'ouvrir à nouveau cette boîte de Pandore avec le gouvernement canadien. Et ils ont donc décidé de claquer la porte et puis de faire on peut appeler ça un pied de nez, d'une certaine manière, au gouvernement canadien en disant « Nous autres, on veut rien savoir de votre autorité comme État de vouloir nous encadrer, nous réguler, comme on dit. »
Mais ça laisse un pays comme le Canada dans quelle position dans ce contexte-là?
Ça l'a laissé dans la même position qu'à peu près tous les autres pays vont être, parce que Facebook a aussi, et Meta plutôt, a aussi annoncé du même coup qu'il allait se retirer à peu près partout de la même manière qu'ils ont décidé de le faire pour le Canada. Dans le cas de Google, moi je considère qu'il y a quand même une victoire importante, il y a un précédent qui est là, parce que le Google, ce qui les agaçait en fait dans le projet de loi C-18, c'est d'être obligé de négocier avec chacun des médias. Alors, eux autres, ils ont dit, nous autres, on veut avoir un genre de package global, et puis ça sera à vous autres de faire le partage de ce montant-là qu'on va verser. Donc, ils ont décidé de verser un montant qui était peut-être pas à la hauteur des attentes de tout le monde, mais au moins, il y a un précédent qui est là, puis c'est la première fois dans les faits que Google reconnaît qu'ils ont cette responsabilité à l'égard des médias aussi lorsque on les utilise dans leur répertoire ou dans Google Search et tout ça, là.
Alain, je regardais, le titre le dit, mais quand tu présentais les participants, on le voyait bien. C'est sciemment que tu as fait des invitations du côté de la francophonie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire de la façon que eux abordent le problème?
Dans un premier temps, il faut parler aussi de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne a vraiment fait beaucoup de kilométrage, si on veut, notamment en encadrant davantage Google, en encadrant aussi Apple. Ils sont en bataille actuellement avec Elon Musk et puis X parce qu'il veut pas respecter les législations qui ont été adoptées par l'Union européenne à l'égard de la concurrence aussi déloyale qui est faite à d'autres plateformes. La France sont beaucoup plus avancés que nous le sommes, notamment sur l'intelligence artificielle. Sur l'intelligence artificielle, déjà la semaine passée, ils ont déposé un projet qui est très bien, à mon point de vue, et dont on devrait s'inspirer. Alors, moi, je pense que la francophonie, il y a aussi quelque chose qui est important pour nous, c'est que il y a des outils, il y a des plateformes qu'on pourrait développer à l'intérieur de cet ensemble qui s'appelle la francophonie. Puis là, ça inclut évidemment l'ensemble des pays africains qui continuent encore à utiliser abondamment le français comme langue courante.
J'entends dans ta tête que tu vois l'Organisation internationale de la francophonie intervenir dans le dossier.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un représentant de l'OIF qui sera là lors de notre rencontre. Il y a aussi tout ce qui se fait du côté de l'UNESCO. J'en parlais dans mon livre, je parlais de la convention de 2005 qui utilisait cette expression de la diversité des expressions culturelles. Le problème, c'est qu'en 2005, on avait oublié peut-être une dimension qui était la dimension linguistique. Alors, tu peux bien avoir une diversité d'expressions culturelles, mais si elles sont toutes en anglais, on n'est pas dans la grande diversité linguistique. Et c'est ce qui s'est produit beaucoup dans plusieurs pays, c'est qu'on a fait des productions, oui, la Norvège, oui, les pays scandinaves, etc. Mais quand on décide de faire des productions en anglais pour avoir un certain rayonnement, ça ne permet pas de garantir un espace territorial, si on veut, à la dimension linguistique à l'intérieur de l'univers numérique. Alors, l'univers numérique, il est contrôlé par les anglo-saxons, il est contrôlé, je pense que c'est 63% des sites, là, je parle pas de tout ce qui se fait sur le web, mais des sites Internet qui sont en anglais. Et quand il concerne, en ce qui concerne la francophonie, c'est 2 à 3% à peu près. Alors, on n'est pas de taille, à moins qu'on décide de se regrouper, puis à moins qu'on décide de développer peut-être des alternatives à celles qui sont les alternatives, plutôt les propositions des Américains de la Silicon Valley. Parce qu'on parle toujours de plateformes américaines ici.
Je lisais dans une entrevue que tu as accordée à une publication, je pense que c'est celle de l'Université de Montréal, où tu disais que peut-être qu'une piste à envisager, c'était l'introduction de billets dans les algorithmes, dans les intelligences artificielles, pour essayer d'arriver à réaxer les recherches pour permettre une plus grande découvrabilité puis un plus grand accès au contenu qui est le nôtre sur ces plateformes-là.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a déjà des discussions qui existent en Europe. Je parlais de l'Union européenne, je parlais de la France, où, par exemple, tu es obligé de dans le référencement d'avoir un certain nombre de choix qui soient territoriaux d'une certaine manière. Parce que sinon, tu vas être enseveli complètement derrière en dessous de tous les choix qui seront proposés et qui, eux, sont des choix qui proviennent d'un peu partout ou qui proviennent surtout d'une décision d'un algorithme américain. Donc, il nous faut avoir un accès à ça. Et c'est la raison pour laquelle il y a aussi beaucoup de discussions qui ont lieu quant à l'égard de la transparence des algorithmes. Évidemment, c'est un secret industriel, les algorithmes, et puis Google ne veut pas donner accès à ça. Mais il n'y a rien qui empêcherait d'avoir une commission internationale relevant des Nations Unies, relevant d'un organisme supranational, où il y aurait des experts qui seraient habilités à pouvoir avoir un accès confidentiel. Donc, ils devraient garder la confidentialité de tout ça, mais tout simplement pour essayer de comprendre comment fonctionnent leurs algorithmes, pour là ensuite pouvoir introduire une certaine façon de prioriser davantage, prioriser les choix du territoire là où les choses se passent.
Et ça, c'est en espérant qu'eux-mêmes savent comment aujourd'hui leur algorithme fonctionne. Ça, c'est une autre question.
Oui, ça, c'est un autre débat, mais moi, j'ai parfois l'impression que les géants numériques et puis leurs propriétaires sont conscients qu'ils ont créé eux-mêmes un monstre qu'ils ne contrôlent pas. Et puis, c'est là où je pense qu'il est important d'avoir une certaine forme d'autorité, autorité réglementaire, mais autorité des États, puis l'État de droit aussi. C'est majeur parce que la seule façon d'avoir des législations, c'est de passer par les États. Et ça veut dire qu'il faut rétablir l'autorité de l'État et l'État de droit. Et c'est la raison pour laquelle moi, je pousse, et puis le symposium des deux jours va le faire, c'est de pousser justement pour qu'on rétablisse cette autorité des États de légiférer pour protéger la culture, protéger nos institutions, protéger aussi la démocratie, protéger aussi l'information et la culture et nos médias. Si on ne fait pas ça, on va se retrouver vraiment dans ce que on peut appeler le chaos. Il y a un auteur qui a publié il y a trois ans, les ingénieurs du chaos, d'Ampoli. Et puis, c'est pour moi, il y a un danger qu'on s'en aille dans cette direction-là si on n'a pas des États assez forts pour pouvoir réguler et encadrer ces superpuissances américaines. Tu sais, on a hurlé en disant c'était écœurant, hein, c'est grave, qu'est-ce qui se passe avec les Chinois et la propriété de TikTok, etc., qui relève de la Chine, et puis ils vont avoir accès à nos données, ils vont avoir accès à tout ce que nous sommes, même nos données gouvernementales, etc. Moi, j'ai juste envie de dire, attention, c'est parce que nos données, on les a déjà fournies et données à un État où il y a des géants qui sont de la Silicon Valley américain. Alors, peut-être qu'on devrait aussi commencer à voir un petit peu, se garder une petite réserve à cet égard-là, puis se dire que nous sommes déjà menacés que nos données appartiennent à une puissance étrangère. Et ça, peut-être que ça veut dire commencer à réfléchir à comment on peut s'affranchir de la superpuissance que constituent les géants numériques, là.
Alain, en terminant, qu'est-ce que tu souhaites qu'il ressorte de cette rencontre?
Ben moi, j'insistais beaucoup sur la notion de regard croisé. Il y a des pratiques qui existent peut-être du côté des autres États. On aura d'ailleurs, il y a une dame, Madame Bensamoun, qui elle travaille directement pour le gouvernement français, notamment pour assurer que l'intelligence artificielle soit encadrée et ne soit pas la propriété exclusive des géants numériques. Parce que tu sais, on parle beaucoup de Sam Altman et puis de son chat GPT, mais Sam Altman, maintenant, a fait une entente avec Microsoft. Et là, ce que ça signifie, c'est que les mêmes géants numériques, ceux qu'on appelait le GAFAM autrefois, ce sont eux qui sont en train de s'approprier aussi de l'intelligence artificielle. Alors, des gens comme Mme Alexandra Bensamoun vont venir nous expliquer comment le gouvernement français est en train d'essayer de faire des choses pour aller dans une direction où on pourra réguler davantage ces géants numériques-là. Peut-être que les Belges ont aussi des propositions à nous faire. Il y a peut-être des intellectuels, des universitaires, des intellectuels, je pense à Edouard Plenel de Mediapart qui sera présent aussi à cette occasion-là et qui a sans doute une réflexion sur comment justement contrer cette puissance que les géants numériques américains peuvent avoir à l'égard de la population et à l'égard aussi des États là où ils sont en train. Ce sont des géants qui sont... Eux autres, ils considèrent qu'il n'y a pas de frontières. Les ondes, le nuage, le cloud, là, ça n'arrête pas un poste frontière. Et de ce point de vue-là, ils considèrent qu'ils ont entièrement le droit de faire n'importe quoi. Fait qu'il faut intervenir.
Alors, je rappelle que le symposium Souveraineté culturelle et géants numériques, regard croisé Canada, France, Belgique, Québec, c'est jeudi et vendredi prochain, les 18 et 19 avril, au laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal.
Et si tu permets, Bruno, juste ajouter que ça va être aussi télédiffusé. Alors, CPAC va capter les deux journées complètement. Et puis, ça va être disponible sur le site de CPAC.ca en rattrapage, en soirée. Le soir du jeudi et le soir du vendredi soir.
Et donc, ça veut dire que même les gens qui nous écoutent à l'extérieur du Canada, avec un peu de chance, pourront suivre ces discussions-là.
Exactement.
Alain Saunier, professeur honoraire au département de communication de l'Université de Montréal et co-organisateur du symposium. Ben Alain, bon symposium et merci d'avoir pris ton temps pour répondre à mes questions.
Merci, Bruno.
On demeure au Québec avec le prochain service que je vous présente cette semaine. Peut-être que certains d'entre vous le connaissez. Je parle de Ting, qu'on prononce comme une pièce de monnaie qui tombe sur le métal. Ting! C'est une des premières plateformes de sociofinancement au Québec, même si ce n'est pas la plus connue. Pour nous en parler, on va aller rejoindre son cofondateur. Bonjour Nicolas Goutaudier.
Oui, bonjour Bruno. Merci beaucoup de m'accueillir.
Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous, votre service, il est déjà en ligne depuis 6 ans. Ça existe. Je me souviens d'avoir lu à un moment donné, je pense que c'était en 2021, vous aviez atteint votre premier million de dollars collectés par les utilisateurs. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi, Ting?
Alors, Ting, aujourd'hui, déjà, c'est une petite rectification. On est plutôt à 5 ans, parce qu'en fait, on a vraiment lancé en 2019. 2018, c'était plutôt une version bêta pour vraiment tester le marché canadien. Et aujourd'hui, Ting, ça ressemble, en termes de volume d'affaires, on est plutôt autour des 5-6 millions. Donc, on a quand même fait une grosse croissance. Et aujourd'hui, Ting, c'est toujours la même plateforme qui fonctionne. On essaie de fidéliser nos utilisateurs. Mais surtout, là, ça fait donc 5 ans et on les fête. Donc, on a plein de nouvelles belles annonces à annoncer à nos membres, à notre communauté.
Et j'ai vu d'ailleurs que vous vous positionnez, j'ai vu une information passer sur le mariage. Vous devenez un allié des nouveaux mariés.
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Ting, aujourd'hui, on lance une campagne de sociofinancement pour deux types de cagnottes, d'occasions, qui sont les cagnottes un peu festives, donc les occasions de la vie festive, et plutôt charité, entraide entre personnes. Et notamment donc dans les cagnottes un peu festives, le mariage est aujourd'hui un événement clé entre là maintenant, hein, entre avril et septembre-octobre, on a énormément des centaines de milliers de cagnottes qui sont créées par an pour dédier au mariage. Donc les gens lancent des cagnottes sur Ting au lieu de ça remplace, vous savez, l'urne où les gens mettent de l'argent dedans, ou même pour payer les invités. Je sais que c'est très culturel ici au Québec où les gens payent souvent leur part du repas, etc. Donc les gens, voilà, utilisent énormément Ting pour les mariages, mais pas que.
Alors là, vous parlez des gens qui l'utilisent dans le cadre du mariage, mais sinon, qui utilise Ting?
Eh ben c'est ça. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de canons créés, notamment pour des anniversaires, donc des fêtes. Ensuite, les pots de départ en entreprise, énormément. Vraiment, le but, c'est de faire un cadeau commun à la personne qu'on souhaite fêter. Et puis l'autre point, c'est les baby showers, naissances, etc. Donc c'est vraiment l'occasion de remercier, de faire un cadeau commun à plusieurs pour une occasion belle. Alors il y a des occasions aussi moins belles, hein. J'ai plein d'exemples à vous donner. Bah, les funérailles ou l'entraide, quelqu'un qui est malade, ça aussi c'est des occasions qui sont énormément utilisées pour lancer une campagne de collecte de fonds.
Comment ça fonctionne? À quoi ça ressemble une campagne typique quand on utilise votre service?
Alors c'est ultra simple. Il faut 1 minute 30 de sa vie pour lancer une cagnotte. Simple adresse email, un nom, un prénom, 5 étapes. Donc nom, prénom, un titre, une photo, une description. On clique sur le bouton valider et le tour est joué. Et après on partage bien évidemment à ses membres proches, famille, communauté. Nous, on a aussi un outil chez nous qui permet aussi de mettre en avant les causes qui nous tiennent à cœur. Donc je parle de nous, c'est l'équipe de Ting, hein. On peut aussi mettre en avant des causes et les booster sur nos réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est aussi un axe prioritaire, notamment auprès des OBNL, qu'on est en train de développer énormément.
Et comment ça fonctionne au niveau de votre modèle économique? Vous prenez une commission, vous prenez un frais fixe?
Alors, on prend 4% du montant total collecté. Donc, je fais un exemple, 1 000 $ collectés, Ting, il y a 40 $ qui revient à Ting et 960 $ qui seront versés. Ça va permettre aussi de payer aussi les frais de Mastercard, de Visa et de sécurité, bien évidemment. Et aussi, également, 1 $ qu'on prend à chaque don, participation. Donc, par exemple, vous participez à 20 $ pour le cadeau de votre femme, eh ben, vous allez prélever 21 $. Mais
D'accord.
que vous mettiez 100, 1 000 ou 10 $, vous serez prélevé que de 1 $. Donc, c'est un frais fixe.
Comment vous gérez tout le volet sécuritaire? Parce qu'il y a beaucoup d'informations là, qui de transactions notamment qui passent dans vos mains. Comment cet aspect-là est géré?
Alors, il est géré depuis le début par un partenaire de confiance qui s'appelle Stripe. Donc tout l'argent et tous les fonds sont séquestrés chez eux. Et ensuite, après, nous, on a des partenaires bancaires canadiens, qui sont la Banque nationale du Canada et la Royal Bank, la RBC. Voilà. Donc tout est bien cloisonné, tout est bien sécuritaire. Il n'y a aucun problème, en fait. Donc,
Et si je vous demandais, c'est quoi la différence si on voulait faire une cartographie là, de ce qui existe comme outil pour aller chercher du financement ou des dons? C'est quoi la différence entre Ting et, par exemple, GoFundMe ou La Ruche?
Alors, bon, La Ruche est très très locale, très québécois. Et attention, c'est très bien, mais surtout, je crois que c'est plutôt des subventions qu'ils vont chercher auprès de l'État. Donc, c'est complètement différent. Ils ont un système d'accompagnement de A à Z aussi, de communication. Et nous, on va plutôt se situer justement un concurrent plutôt indirect ou direct avec GoFundMe, donc le leader mondial. Alors, GoFundMe, surtout eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font il y a énormément de cagnottes, de campagnes de sociofinancement qui sont lancées pour l'entraide, la charité, les gens dans le besoin, etc. Et nous, en fait, ce qu'on a fait, et on est toujours le numéro un, on s'est lancé, on était les seuls en 2019, et aujourd'hui, on est toujours les seuls, parce qu'on s'est lancé sur un vertical j'en ai parlé tout à l'heure, les cagnottes un peu festives. Pour les anniversaires, les baby showers, les mariages, et j'en passe, le cadeau commun, la notion de cadeau en groupe, et GoFundMe ne fait pas ça. En fait, GoFundMe, eux, ils sont plus... On a le réflexe d'aller lancer une campagne de
Dans
sociofinancement
l'entraide.
dans l'entraide, exactement. Donc nous, on est vraiment parti sur ce vertical-là, qui est forcément un peu plus petit, et on a de fortes ambitions justement de se développer maintenant dans ce sens-là. Mais il fallait qu'on y aille étape par étape, et c'est ce qu'on a fait depuis 5 ans. Notamment, on a levé on a fait notre première levée de fonds il y a quelques mois. Donc maintenant, on a les moyens de nos ambitions.
Si j'inclus la version bêta, donc en juin 2018, quand vous rendez la chose possible, que les gens peuvent utiliser là, votre service, qu'est-ce qui a changé en 6 ans dans votre service? D'abord, qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce qui a changé?
On a appris énormément de choses à mieux connaître nos utilisateurs. On a eu énormément de retours, excusez-moi l'anglicisme, de feedback de la part de nos utilisateurs. Donc, on a amélioré énormément l'expérience. C'est beaucoup plus fluide, ça a été beaucoup plus fluide au fil du temps. Ça, c'est le premier point. Ensuite, après, on a testé énormément de choses. marketingement, hein, nous, le concept se passe énormément sur le sur le web, donc plein d'opérations marketing digital à droite à gauche. Et votre deuxième question, c'était quoi plutôt? J'ai oublié, excusez-moi Bruno.
Ben, ça, c'était qu'est-ce qui a changé depuis ouais. 6 ans. Mais qu'est-ce que vous avez appris sur le socio-financement, sur l'entraide en ligne, sur même vos utilisateurs?
Ben, c'est ça. En fait, on a appris qu'on avait une vraie communauté. On a aujourd'hui à peu près entre 80 et 90 000 membres.
Parce que les gens reviennent. Hein? C'est ça que je disais quelque part. Vous avez une bonne moyenne de retour au bâton, là.
C'est ça. Alors, moi, je vais l'appeler de façon un peu plus vulgaire la viralité du, ouais. du concept. Effectivement, les gens reviennent à peu près, je crois que le taux de viralité est entre 15 et 20 %. Donc, les gens reviennent assez régulièrement quand même. Ça, c'est la redondance. Et puis, là, oui, la viralité.
Et pas toujours pour la même raison, là, mais parce qu'ils aiment l'outil. Ouais, c'est ça.
Exactement. Mais en fait, il y a plusieurs trucs. La marque aujourd'hui est assez forte. Le Monting parle, surtout au Québec. Hein, on a lancé au Québec. Après, au Canada, on tend à se faire connaître de plus en plus sur le marché anglophone. Mais oui, effectivement, la marque est reconnaissable. Le son, le ting, j'en ai parlé tout à l'heure. On apporte de la confiance, de la sécurité. Donc aujourd'hui, depuis 5 ans, on a énormément travaillé sur l'expérience utilisateur, sur les retours de nos clients, si je puis dire, et sur notre marque. Et là, donc maintenant que ça fait 5 ans, par contre, on pivote pas, mais on rafraîchit un petit peu Ting, à savoir donc on a une nouvelle identité visuelle, on rafraîchit un peu le logo, on le trouvait un petit peu vieillissant. On refait toute l'interface, donc une nouvelle expérience utilisateur encore plus optimisée, encore plus simple. Là, ça va être normalement le site est live début mai, si tout se passe bien. On a un nouveau slogan, ça je pourrais vous en parler, qui s'appelle Ting Sharing is Caring, donc qui prône des valeurs justement de d'entraide et communautaire. Et on sort des nouvelles features, des nouvelles améliorations sur le site, notamment on va sortir une carte de remerciement virtuelle qui permettrait d'avoir de tout cloisonner. On lance la cagnotte, on récupère l'argent, on remercie les personnes sous forme de carte, etc. Ça s'en vient cette année en 2024. Et enfin, le dernier point, c'est le lancement du marché américain. Comme on a, je l'ai dit tout à l'heure, on a levé un petit peu d'argent. On a des ambitions d'aller voir le marché américain, pas faire concurrence à GoFundMe. On a des ambitions importantes, mais pas démesurées non plus. Mais voilà. Donc c'est un peu les 5 points pour fêter nos 5 ans. C'est ça que je voulais vous dire.
Ah ben quand même, c'est pas banal. Donc occupé pour les prochaines années. Là.
Occupé pour au moins 2-3 ans et après on espère accélérer encore davantage notre croissance en refaisant un tour de table éventuellement, relever des fonds si la feuille de route suit ses objectifs d'ici là, quoi.
Nicolas, je rappelle que vous êtes cofondateur de Ting, la première cagnotte en ligne canadienne. Merci d'avoir pris du temps de répondre à mes questions.
Mais merci beaucoup, Bruno, de votre invitation. Merci, au revoir.
Cette semaine, l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval publiait un nouveau fascicule de son enquête Net Tendance. Et cette fois, cette édition du Net Tendance s'intéresse à la pratique du commerce électronique en ligne par les Québécois. Pour voir les grandes lignes de l'enquête, on retrouve Claire Bourget à l'instant, la directrice en intelligence d'affaires et marketing de l'ATN. Bonjour, Claire.
Bonjour Bruno.
Claire, nouvelle édition du Net Tendance qui, cette fois, comme je le disais, porte sur le commerce électronique. Et cette édition de 2023, elle n'est pas porteuse de très bonnes nouvelles pour les cybermarchands québécois.
Non, pas vraiment, puisque en 2023, ce qu'on voit, c'est une baisse des achats en ligne faits auprès de marchands québécois.
Alors que partout ailleurs, c'est stable ou ça progresse?
Oui, puis même Amazon continue
à grimper, ben oui.
C'est ça.
Mais quand vous regardez les chiffres, Claire, ça semble quoi être le problème par rapport aux achats chez les marchands québécois?
Je vais peut-être donner un petit peu d'informations sur le contexte. Nous, on fait notre mesure, on l'a fait la dernière ouais. en janvier 2024 et on pose la question sur toute l'année précédente. Donc, on a fait ça cette année, on l'avait fait l'année précédente. Puis l'année précédente, donc on parle des fêtes là, de 22, 23. Mm-hmm. Au cours de cette période-là, je sais pas si vous vous souvenez, le panier bleu avait quand même fait de la publicité.
Ouais, oui.
Ils avaient été assez présents, ce qui fait que en janvier, ben, c'était plus frais dans la mémoire des gens. Et on avait, ben, dans nos données, ça indiquait à ce moment-là, là, quand même un pourcentage, là, disons, plus intéressant d'achats faits auprès de marchands québécois. Cette année, ben, ça n'a pas été le cas, si bien qu'on assiste, c'est quand même, il y a une baisse de 11 points de pourcentage. On est passé, en fait, au niveau des marchands québécois en 2023, c'est 15 % de toute leur enveloppe, si on veut, là, leur enveloppe d'achat en ligne fait au cours de l'année au complet, qui est allé aux marchands québécois. Et on était à 26 % l'année d'avant. Fait que
c'est énorme. Peut-être pour mettre en perspective, aujourd'hui, donc vous le disiez, c'est 15 % et quand on regarde où on fait les achats ailleurs, Amazon va chercher 51 % les marchands canadiens dans leur ensemble vont chercher 16 % et les autres marchands extérieurs, on peut penser même aux Temu et compagnie, ben les autres vont chercher 18 % Donc 15 % là, les marchands québécois sont vraiment en bas du palmarès là.
Exactement, ils sont en bas du palmarès. Puis, à mon avis, ce qui explique ben, en bonne partie cet aspect-là, ben, il y a deux éléments, mais toute la question d'être capable de trouver ces produits. En culture, maintenant, on entend souvent le mot découvrabilité des produits.
Tout à fait.
Là.
Mais c'est ben, vrai aussi dans le commerce en général. Ouais.
Exactement. Puis, c'est très pertinent aux produits québécois parce que c'est un petit peu plus d'un Québécois sur trois qui mentionne que c'est difficile de trouver les produits québécois.
Ça veut donc dire que, si on revient dans l'actualité récente, l'entente qui a été faite entre une association québécoise et Amazon, en voulant bien identifier clairement que le produit est québécois ou qu'il est fabriqué au Québec ou qu'il est de conception québécoise, ça va aider.
Ça va aider. Mais quand on regarde, bon, en fait, sur Amazon, on a créé la boutique.
C'est ça, Fleur de Lys.
Bon, mais ça veut quand même dire pour l'acheteur québécois, il faut penser à aller là. Ouais. C'est pas juste dire on va sur le site d'Amazon, là. Il faut trouver cette section-là. Puis là, dans cette section-là, ben, on voit des produits québécois. Mais quand on magasine, tu sais, le processus de magasinage, je pense, si je cherche un produit donné, ben je veux être capable de comparer, par exemple, le produit du Québec avec les autres. Je vais comparer les prix, je vais comparer les caractéristiques. Bon, puis dans la structure actuelle des produits du Québec, ben
c'est pas possible.
C'est pas comme ça. Ouais. C'est pas comme ça que c'est organisé.
Mais disons, Claire, que le Québécois fait, le cyberacheteur québécois fait cette démarche-là. Quand on regarde, puis vous le disiez, quand on regarde maintenant les prix,
oui.
C'est encore un facteur qui est un irritant, ça, à l'achat de chez un cybermarchand québécois.
Exact. Ça, c'est le deuxième élément. Il y a une perception chez un Québécois sur trois à l'effet que les produits du Québec sont plus chers, voire trop cher pour leur budget. Fait que, est-ce que dans les faits, c'est vrai? Moi, je pense que ça dépend toujours
des produits.
Ça dépend de bien des choses. Mais parfois, oui, un produit peut être plus cher que l'autre, mais peut-être qu'il est plus durable qu'un autre aussi.
Exactement, de meilleure qualité. Mais ce que vous relevez, puis c'est ça qui est important, c'est la perception. Et la perception, ben, c'est le premier contact qu'on a dans une démarche d'achat, là. Et si on perçoit, on a l'impression que ça va être plus cher, on fera peut-être même pas le geste d'aller vérifier chez le marchand québécois. C'est ça le problème.
Exactement. Donc, les marchands québécois auraient avantage à adresser ces éléments-là quand ils présentent leurs produits.
Excellent conseil.
Leur pitch de vente en français, en bon français.
Claire, il y a une autre information que j'ai trouvée très intéressante et pertinente. Quand on regarde l'utilisation des réseaux sociaux dans le contexte des recommandations. On parle toujours de Google Review, puis on parle des commentaires sur les sites d'un marchand, mais les réseaux sociaux sont encore un outil très utilisé pour aller chercher l'opinion d'un tiers ou l'endossement d'un tiers en vue de faire l'acquisition d'un produit, là.
Oui, puis en fait, moi, ça m'a étonné parce que même chez les plus jeunes, les 18-24, c'est 61% des gens de ce groupe-là qui disent oui, les réseaux sociaux, Facebook et autres, pour nous, c'est une source qu'on consulte pour aller chercher des recommandations sur des produits. Donc, tantôt, quand je parlais des marchands québécois, là, ben, il y aura peut-être avantage à être davantage, à être plus présent sur les réseaux sociaux pour faire valoir justement est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont...
Régler les problèmes de perception.
Exactement.
Autre donnée, c'est intéressant parce qu'on en avait parlé il y a pas tellement longtemps, c'est le marché du seconde main. Et là, on reconfirme donc dans ce fascicule que les adultes québécois, une de leurs façons de consommer sur Internet, c'est en passant par les canaux de produits seconde main.
Oui, puis ça, étonnamment, ça a baissé en 2023. Bon, est-ce qu'en 2022, les gens ont dit « OK, ben là, c'est le temps, c'était plus difficile avec l'inflation, on était à ses débuts, là, si on veut, là. » Mais en 2023, là, on est 44% qui ont acheté en ligne des produits de seconde main, puis l'année d'avant, on était à 56%. Fait que c'est une baisse autant pour l'achat en ligne que la vente en ligne de produits de seconde main, produits usagés.
Claire, qu'est-ce que vous retenez de cette édition de notre tendance?
Bon, à part ce qu'on a discuté tout à l'heure, moi, je pense, on l'a évalué. Il y a une plus grande préoccupation des gens par rapport à la sécurité de leurs données personnelles. Puis ça, mais moi, je pense que c'est positif.
Ben oui.
Parce que je pense qu'aux citoyens, là, c'est à tous et chacun de se préoccuper, de se poser la question, si j'achète sur un site que je connais pas, mes données, ils vont faire quoi avec? Est-ce qu'ils ont des politiques de gestion des renseignements personnels qui sont adéquates? Fait que moi, ça, je trouve que c'est une bonne chose. Mais je trouve ça, bon, c'est dommage. Les marchands québécois, je pense qu'il y a encore du travail à faire pour qu'ils puissent rayonner davantage.
Bon, ben merci pour toute cette sagesse pour mettre en contexte ces chiffres-là. Claire Bourget, je le rappelle, vous êtes directrice en intelligence d'affaires et marketing à l'Académie de la transformation numérique. Et puis, le plus important encore pour moi, vous êtes l'éditrice de l'enquête Net Tendance. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Puis, je vous dis à une prochaine.
À une prochaine, Bruno.
Au revoir, Claire.
Au revoir.
Ici Patrick Pierra, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref? C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet.
Au tour maintenant de mes collègues et on commence avec Thierry Weber qui voulait rendre hommage à un grand scientifique qui vient de nous quitter.
Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Peter Higgs, le physicien britannique lauréat du prix Nobel de physique en 2013 pour ses travaux sur ce qui est désormais connu sous le nom de boson de Higgs, est décédé à l'âge de 94 ans. Cette particule fondamentale est considérée comme essentielle pour comprendre la structure de la matière dans l'univers. Higgs est mort paisiblement à son domicile ce lundi 8 avril dernier, des suites d'une courte maladie, comme l'a rapporté l'Université d'Édimbourg. La contribution de Peter Higgs et de François Engler, qui a également reçu le Nobel avec lui, remonte à 1964, lorsqu'ils ont proposé l'existence théorique du boson de Higgs. Cette particule est au cœur du modèle standard de la physique des particules, théorie qui décrit les forces fondamentales agissant entre les particules élémentaires. Le boson de Higgs est particulièrement crucial car il est responsable du mécanisme qui confère leur masse aux particules élémentaires. Il a fallu attendre la découverte de cette particule concrètement en 2012 au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Ça a été un moment déterminant pour la communauté scientifique. Le CERN, d'ailleurs, créé en 1954, est situé près de Genève en Suisse, est un des plus grands laboratoires de recherche scientifique au monde. Il est non seulement le berceau du Large Hadron Collider, le LHC, le plus grand accélérateur de particules du monde, mais il a également été le lieu de naissance du World Wide Web, développé par Tim Berners-Lee en 1989, pour faciliter la communication entre scientifiques dans différents instituts. Ces innovations soulignent l'importance du CERN non seulement pour la physique des particules, mais aussi pour la technologie moderne et la société globale. Le boson de Higgs a souvent été surnommé la particule de Dieu en raison de son rôle fondamental dans la physique. Cependant, Peter Higgs, qui était athée, était réticent à utiliser ce terme, préférant se concentrer sur les implications scientifiques de sa découverte. Ce boson confirme que le champ de Higgs, un champ énergétique omniprésent, existe réellement et joue un rôle clé dans notre compréhension de l'univers. Peter Matheson, directeur de l'Université d'Édimbourg, et Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN, ont tous deux salué la mémoire de Higgs, mettant en lumière son impact profond et durable sur la physique. Sa capacité à expliquer des phénomènes complexes de manière accessible en a fait un professeur exceptionnel et une source d'inspiration pour les futures générations de physiciens. En conclusion, la disparition de Peter Higgs est une perte significative pour le monde scientifique. Son travail a non seulement permis de valider une composante essentielle du modèle standard de la physique des particules, mais il a également inspiré un vaste champ de recherche qui continue d'évoluer. Grâce à ses contributions, le CERN a pu renforcer sa position de leader mondial dans la recherche scientifique. L'héritage de Higgs, marqué par la curiosité, l'humilité et une profonde compréhension de la nature, continuera d'influencer et d'inspirer bien au-delà des frontières de la physique théorique. Ah, au fait, une anecdote amusante au sujet de M. Higgs. Saviez-vous qu'il avait en horreur certains aspects de la modernisation, tels que le smartphone? Eh oui, c'est avec humilité qu'il a suivi les retombées de sa découverte. Il avait confié avoir appris qu'il avait reçu le Nobel dans la rue lorsqu'une ancienne voisine l'avait abordé pour le féliciter. Comment je me sens? Eh bien, évidemment, je suis ravi et plutôt soulagé dans un sens que ce soit fini. Ça a mis du temps à arriver, avait-il déclaré. Comme quoi, même avec un accélérateur de particules, cela peut prendre plus de temps que l'on imagine pour concrétiser certaines découvertes. Allez, tout mon respect, Monsieur Higgs, et vous, chers auditeurs, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
Ah, ça, c'est de la fidélité. Hein? Stéphane Ricoul, qui est absent cette semaine, mais qui voulait tout de même nous envoyer une petite carte postale sonore, question peut-être de nous narguer au son de la mer. Non, plus sérieusement, il voulait tout simplement nous préparer à son sujet de la semaine prochaine, mais quand même, vous pouvez vous permettre de rêver un peu en entendant le bruit de la mer, mais aussi celui du vent.
Si cette carte postale sonore vous parvient directement de quelque part du côté des Antilles, c'est plutôt du Costa Rica dont je vais vouloir vous parler. Depuis longtemps déjà, le Costa Rica mise sur les technologies de pointe. Le café et les bananes ne sont plus les premiers produits d'exportation du pays, supplantés depuis plus d'une dizaine d'années par les dispositifs médicaux. À présent, le Costa Rica est en lice pour devenir la Silicon Valley de l'Amérique latine. Et les États-Unis ont tout intérêt à les y aider. Mais de tout ça, je vous en parlerai la semaine prochaine, puisqu'à présent, ce sont les 12 vagues que vous entendez dont je vais profiter.
C'est le moment d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François.
Bonjour Bruno.
Jean-François, cette semaine, on demeure à Québec. Grosse semaine à Québec avec la semaine numérique. Il y a le Salon du Livre qui ouvrait ses portes cette semaine. J'avais même une conférence que je donnais à Québec. C'est très, très, très numérique, Québec, cette semaine. Mais donc, toi, hein, pour poursuivre, tu as décidé de parler à quelqu'un qui est à la ville de Québec pour parler UX.
Tout à fait. Moi, j'ai pas eu l'occasion de me rendre en personne à Québec, mais effectivement, j'ai parlé avec Pierre-Luc Lachance, qui est vice-président exécutif et conseiller municipal à la ville de Québec. Et il m'a parlé de sa conférence à l'avance. Là, la conférence a eu maintenant lieu. Donc, c'est pas un scoop qu'on donne, mais un résumé peut-être.
Pour les gens qui n'étaient pas là.
Sûrement des choses différentes aussi. Ça avait l'air d'être très prometteur. Je suis content pour ceux qui ont eu l'occasion de l'entendre. Ben, on parle du système de gestion du trafic dans la ville de Québec. Bon, évidemment, tu sais que je lui ai posé la question, est-ce que ça gère les vélos et les piétons? Non, pas encore. Mais ça s'en vient dans le futur. Okay. Ils ont un partenariat avec Google aussi qui va les aider à éventuellement intégrer ça dedans. Mais ne serait-ce que pour l'instant, j'ai trouvé ça intéressant parce que là, ça fait quelques années que la ville de Québec sont super en avance sur toutes les villes en Amérique du Nord parce qu'ils ont un système de gestion des lumières de trafic. Donc, quand tu as un camion de pompier, tu peux littéralement avoir une priorisation qui va se faire pour le camion parce que toutes les lumières sont synchronisées avec ce système-là. Et là, ben c'est l'AI qui s'en vient, c'est l'intelligence artificielle puis les éléments que ça va donner. Et ben évidemment, moi, mon petit edge là-dedans, ben, c'est toujours l'humain, hein, c'est toujours l'interface humain-machine. Et là, on regarde à qu'est-ce qui va se passer quand l'humain, tranquillement, va être remplacé par l'algorithme parce que pour l'instant, ce système de gestion-là, il est majoritairement contrôlé dans une salle très science-fictionnelle, m'a-t-il décrit, avec plein d'écrans sur toutes les grandes artères de Québec, là.
Avez-vous parlé du troisième lien?
Non.
Ah, ça, c'est évacué de la conversation.
C'est un autre dossier. C'est de la politique.
Jean-François, merci pour cette rencontre. On va aller l'écouter. Puis c'est intéressant de parler de UX dans le contexte de l'urbanisme puis la gestion du trafic parce que c'est tellement au centre maintenant des vies.
Et étant moi-même un urbaniste de formation.
Bon, tu vois, hein, tout est dans tout.
Tout est dans tout.
Jean-François, merci d'être dans mon carnet depuis si longtemps. Nous cessons ces politesses et nous allons écouter à l'instant ton reportage. Salut, puis à la semaine prochaine. Bye.
Merci, bye.
Ma conférence s'appelle « L'IA dans le trafic ». Hi-ha! Justement, un peu en blague. Et dans ma présentation, c'est très drôle parce que j'utilise beaucoup le cheval pour présenter l'évolution de ma conférence. Donc, je retourne aux moyens de base pour expliquer les moyens du futur de déplacement. Mais il n'y en demeure pas moins que pour moi, quand on parle souvent de villes intelligentes, on se met souvent en mode de parler en termes de numérique seulement. Puis pour moi, ça, c'est super important de faire une distinction claire qu'une ville numérique, c'est pas une ville intelligente. Une ville intelligente, c'est une rencontre de sujets d'une ville numérique. On peut parler des interfaces, de la gestion des données, de l'intelligence artificielle, des univers virtuels, du réseau, du matériel. Mais avant tout, une ville intelligente, ça rencontre aussi une ville qui est humaine, c'est une ville qui est saine, c'est une ville qui est accessible, c'est une ville qui est créative, c'est une ville qui est bienveillante, c'est une ville qui est apprenante. Et quand on fait cette rencontre-là de ces deux sujets-là, c'est là qu'on crée ce qui est, selon moi, le territoire d'être une ville intelligente. Et là, on va travailler en termes d'innovation, d'engagement citoyen, de confiance. Hein? C'est important, la confiance dans notre société. Puis on peut en parler à travers l'intelligence artificielle, de cette confiance-là qui se voit un peu chamboulée par les ajouts de la relation que ça amène à avoir avec l'intelligence. Puis, on parle aussi de ville intelligente, on parle de santé. Fait que, tu sais, pour moi, c'est important d'avoir une ville intelligente, là, c'est des citoyennes en santé sur un territoire en santé, en positionnant l'humain au cœur de l'innovation sociale et technologique. Et c'est là qu'on a tout un défi avec l'intégration de la notion d'intelligence artificielle et des algorithmes. Parce que, tu le sais, Jean-François, les algorithmes sont dessinés par des gens. Et les gens...
Il y a des biais.
On a des biais qui existent. On en a tous et c'est propre à l'humain. Mais il n'y en demeure pas moins que lorsqu'on programme ces algorithmes-là, lorsqu'on traite des données, lorsqu'on tente de donner un sens aux marées de données qu'on a, surtout dans une ville, ben ça peut avoir des dérives. Il faut faire extrêmement attention dans cette dynamique-là.
Parce que les biais, tu le dis, ben mettons dans le cas du trafic, comme tu en parles là, le biais, ça peut être de dire, ben on veut faciliter la vie des gens en voiture, mais on le sait dans le trafic. J'ai étudié en urbanisme il y a quelques années quand même, donc il y avait eu un cours de trafic. C'est pas si simple que de dire on veut absolument fluidifier ou faciliter parce que ça a des impacts potentiellement sur la santé des gens parce que le trafic va plus vite. Et là, je me demandais aussi si on connecte les systèmes de circulation sur des algorithmes. Il y a des gens, des fois, qui connaissent les patterns des lumières quand ils prennent le boulevard un tel ou un tel, puis ils savent qu'ils vont devenir rouges. Là, si on dit qu'on met des algorithmes apprenants là-dessus, les patterns vont changer aussi. Ça va obliger tout le monde à être super vigilant, là.
Puis c'est drôle que tu amènes ça comme ça, Jean-François, parce que les patterns et tout, ça ramène à la notion de complexe versus compliqué. Et pour moi, ça, c'est la base même du fonctionnement qu'on essaie d'intégrer. C'est que On essaie de faire une résolution de situation compliquée alors que le problème est complexe. Et je m'explique. Compliqué, c'est envoyer une fusée sur la Lune. Il y a des calculs mathématiques qui permettent, qui sont pas simples, on s'entend, mais qui permettent d'envoyer la fusée sur la Lune et que généralement les gens reviennent en vie et avec quelques tonnes de pierres lunaires. Ça se fait. Complexe, c'est élever un enfant. Il n'existe pas une recette miracle qui fait que on est capable de savoir que telle façon d'agir avec l'enfant va absolument générer tel comportement. Chaque personne a sa personnalité, a ses variables. Et c'est un peu ça, gérer une ville, c'est une situation complexe, surtout lorsqu'on parle de la gestion de la mobilité, parce qu'il existe des milliers, voire millions de variables. La chaussée, l'état de la chaussée, l'état de la peinture, l'état de la température, le nombre de voitures, le nombre de piétons, le nombre de... C'est une accumulation quasi sans fin. Et donc, on arrive avec une façon de faire, donc d'amener de l'intelligence artificielle qui, à la base, travaille en mode pattern. Et présentement, tu sais, l'intelligence artificielle, l'évolution qu'on a depuis 20 ans, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle générative grâce au réseau de neurones et au deep learning. Mais présentement, ce qui se fait dans le domaine du trafic, c'est de l'intelligence artificielle basée sur des modèles d'analyse. Parce qu'on n'est pas encore capable de faire qu'une intelligence artificielle générative fasse des analyses en temps réel de l'ensemble de ces éléments-là pour produire un résultat. Puis il faut que le résultat, la réponse qui arrive de l'intelligence artificielle générative, quand on fait du ChatGPT et tout, c'est pas grave que ça soit pas parfait. Hein? Tu sais, ChatGPT, présentement, on est à un niveau que je dis, moi, c'est un bon stagiaire. C'est quelqu'un qui nous accompagne, mais il faut lui donner un bon input, puis il faut reviser son output pour être sûr que ça correspond, puis il faut corriger un peu ce qu'il nous donne. Bien, en trafic, on ne peut pas se permettre ça parce que nécessairement, c'est la vie des gens qui vont être en danger. Si les lumières se mettent à peut être gérées dans le sens du monde, ben, on va peut-être envoyer un piéton dans le milieu du trafic alors que la lumière est verte, ce qui ne serait pas intéressant. Et autre problématique, c'est que présentement, l'intelligence artificielle, elle considère beaucoup la dimension véhicule automobile et très peu les autres dimensions de la mobilité. Alors que ce qu'on tente de faire pour une société du 21e siècle, pour une ville comme Québec, puis je pense que c'est le cas aussi d'une ville comme Montréal, c'est d'intégrer la multimobilité au cœur des déplacements des gens, d'intégrer, là, de passer de besoin de servir l'auto au service de déplacer des humains. Et ça, ça va être tout qu'un défi pour la suite.
Mais tu me disais en pré-entrevue que vous avez déjà un système, un gestionnaire artériel qui est comme le plus avancé en Amérique du Nord, il est top. Là. Vous avez quelque chose de vraiment très fort. Qu'est-ce que donc l'algorithme va ajouter? On s'entend, un système bien fait, quand tu dis un système de gestion artérielle, c'est plus qu'une lumière individuelle programmée, comme on voit dans beaucoup de villes. Ils sont tous programmés avec un plan global, mais ils ne sont pas interconnectés entre elles. Toi, tu dis à Québec, vous avez un gestionnaire artériel, donc ils sont tous interconnectés dans un système centralisé, là. Qu'est-ce que l'algorithme peut venir faire à par-dessus ça que le gestionnaire artériel ne faisait pas déjà?
Bien, peut-être je vais me permettre d'expliquer pour les gens qui nous écoutent la dynamique du gestionnaire artériel. C'est quoi ça, un gestionnaire artériel? Bien, c'est un système qu'on a développé depuis 2015. Et en 2015, comme Ville de Québec, on est allé voir le marché des gens qui construisent des logiciels de gestion de trafic pour dire, est-ce que vous auriez quelque chose qui nous permet de faire du contrôle de circulation, la gestion de nos caméras, la gestion de nos boucles de détection, faire des feux de préemption au niveau des pompiers, au niveau des autobus, entre autres, pour faciliter la fluidité de la circulation, par exemple, lorsqu'il y a des mesures d'urgence. Et les entreprises nous ont regardé en 2015 avec des yeux de chevreuil sur l'autoroute en disant « Ouais, non, nous, on peut faire ce petit module-là. Nous, on peut faire ce petit module-là. Nous, on peut faire ce petit module-là. » Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est une interrelation entre l'ensemble des modules.
Fait qu'on a développé... En 2015, il n'y avait rien dans le marché mondial qui faisait ça.
Absolument. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'on est allé à Los Angeles, on est allé un peu partout s'informer. Personne n'avait ça. Fait qu'on a décidé de le développer à l'interne. C'est nos équipes Ville de Québec qui ont développé ça et on s'est donné du travail en phasage. Donc, aujourd'hui, en fait, à la fin 2023, on est arrivé à la fin de la phase 1. Fait que là, aujourd'hui, la Ville de Québec, on a 600 intersections dont on contrôle les feux de circulation. Puis je dis 600 pour avoir des chiffrons parce que ça fluctue en fonction de ce que les équipes travaillent au jour le jour. Donc, on a 600 intersections, on a plus de 400 caméras qui nous aident à avoir une vue sur le réseau et de contrôler le réseau. On a un système justement qui permet que si les pompiers sont appelés, doivent sortir d'une caserne, bien, on réussit à faire contrôler les lumières pour leur donner des lignes droites de vertes pour se rendre sur les lieux d'intervention. On a un système qui permet aux autobus d'avoir de la préemption, donc de laisser un temps de quelques secondes de plus que la lumière est verte s'ils sont en retard sur leur trajet pour justement redonner de la fluidité. Et ce système-là, développé à l'interne, il est magnifique d'ailleurs. On a fait quelques émissions dernièrement avec parce que lorsqu'on est venu dire qu'on allait développer dans le futur la phase 2, ce qu'on a commencé cette année, entre autres avec un partenariat avec Google, c'était pour intégrer de l'intelligence artificielle. Puis là, l'idée, c'est d'y aller, encore une fois, par phase et de pas essayer de vouloir régler tous les problèmes et tous les aspects qu'une intelligence artificielle peut amener. Mais on s'est dit, on va commencer par essayer de voir ce que l'intelligence artificielle sait faire à date, donc améliorer la fluidité des véhicules auto. Puis peut-être te donner, Jean-François, présentement, nos caméras et tout, on a des contrôleurs. Puis imagine-toi là, une salle, là, un mur là, qui fait à peu près 25 pieds de long, qui fait 8 pieds de haut, et c'est juste des moniteurs. Et là, on a des contrôleurs, des humains, qui sont là puis qui observent le territoire et que lorsqu'ils voient des situations où il y a des bouchons de circulation, peuvent intervenir. Donc, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on dit, par exemple, on a un bouchon qui se crée à telle intersection, bien, on va venir contrôler le système de lumière manuellement pour permettre d'avoir plus de temps, par exemple, pour une direction pour vider un sens de trafic. Ça aussi, c'est très utile en événement. C'est Festival d'été de Québec, par exemple. Là, je sais pas si tu es déjà venu au Festival d'été de Québec. Bon, oui. L'air de rien, les plaines, on a 100 000 personnes, on a d'autres scènes autour et il y a facilement là, pas loin de 200 000 personnes en Haute-Ville de Québec un bon soir de juillet, du festival. Mais ces gens-là, il faut, comme on dit, les sortir du centre-ville après un spectacle. Et là, c'est là qu'on met, entre autres, le gestionnaire artériel en fonction pour prioriser à sortir les autobus. Et ensuite de ça, on vide le centre-ville complètement en contrôlant toutes les lumières pour que les stationnements se vident. Donc, on a tout un système qui est fait, mais présentement, c'est fait manuellement. Et ce qu'on veut un jour arriver, c'est de dire comment ces interventions-là manuelles pourraient être automatisées et pourraient même travailler en prédiction versus les besoins. Par exemple, je donne cet exemple-là, puis il est fictif, mais pour moi, il fait sens. On sait que telle intersection, l'intelligence artificielle vient analyser que telle intersection, lorsqu'il y a 8 cm de neige ou plus, devient toujours bouchée à cause que les gens décident de prendre ce pattern de cheminement-là pour se rendre à destination. Mais nous, comme ville, parce que l'intelligence artificielle le mesure, bien, comment on va pouvoir agir en prédiction pour éviter que le bouchon se forme? Quand il y a plus que 8 cm de neige qui se forme à cette intersection-là. Fait que c'est là qu'on aimerait aller, mais on est très, très loin de ça, j'aime mieux le dire.
Ça devient un modèle vendeur, là. Il y a des villes qui vont littéralement vouloir vous acheter cette expertise de logiciel ou juste la connaissance que vous avez avec. Il y a là-dedans une connaissance qui va intéresser bien des gens, là.
Absolument. Puis, tu sais, en même temps, pour la Ville de Québec, présentement, si on avait à développer nous-mêmes tout ce qui est nécessaire pour faire de l'intégration de l'intelligence artificielle dans un système comme la mobilité, ça serait des investissements à coût de dizaines, centaines de millions, tu sais, en termes d'infrastructures technologiques, en termes de développement d'algorithmes et tout. Et juste le classement, l'organisation des données et l'interrelation de l'ensemble des données. C'est pas une chose simple. Donc, en s'associant avec un partenaire comme Google, ben, on vient un peu tirer profit de toute cette capacité que Google a et que nous, à la Ville de Québec, on n'a pas et que là, on va être capable quand même de voir certains résultats à être testés. Et ça va nous donner, comme on dit, les clés à travailler pour la suite des choses. Mais je vous dis qu'il y a tout que du travail à faire en termes d'intégration pour arriver à l'ultime objectif qui est une sécurité routière pour tous.
Super. Pierre-Luc, merci vraiment beaucoup pour ton temps ce matin.
Ça fait plaisir, Jean-François.
Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à nos invités. Merci à mes collègues Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Ricault et Jean-François Poulin pour leur présence cette semaine. Et puis, ben merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Si vous êtes sur la route, je vous souhaite une très bonne route. Si vous êtes à la maison, ben portez-vous bien. Si vous êtes au travail, ben je vous souhaite du courage. Et puis nous, ben on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien.